Voix Nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Mathilde Wagmann rencontre Jean-François Stévenin. Ce soir, du Jura à Cuba.
Jean-François Stévenin, bonsoir.
Bonsoir.
Depuis bientôt 50 ans, vous promenez votre visage, votre voix, votre silhouette dans de très nombreux films de cinéma. Beaucoup de gens vous connaissent, je crois, d'abord comme acteur, mais vous êtes aussi le réalisateur de 3 films profondément singuliers qui ne cessent d'être redécouverts au gré de rétrospectives, de ressorties en salle et qui vont l'être encore bientôt à l'occasion de leur restauration numérique. Ces 3 films, ce sont Passe-Montagne, votre premier qui est sorti en 78, Double Messieurs en 1986 et enfin Mishka en 2002. Votre vie professionnelle s'est déroulée tout entière du côté du cinéma. Vous avez commencé en vous formant sur les plateaux de tournage et en étant l'assistant de metteur en scène qui s'appelait François Truffaut, Jacques Rivette ou encore Jacques Rosier.
Oui, il y a pire.
Tout au long de la semaine, vous allez nous raconter ce parcours de vie et de cinéma. Mais pour commencer, je voudrais qu'on fasse un petit voyage du côté du Jura. Le Jura, c'est le décor et peut-être même le personnage principal au fond de votre premier film, Passe-Montagne. Vous y avez aussi une maison aujourd'hui. Et puis, c'est là où vous êtes né. Un 23 avril 1944,
ouais.
Je crois, dans une petite ville qui s'appelle Périgny, qui est juste à côté de Lons-le-Saunier. C'est là où vous avez grandi. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord depuis quand vos parents étaient installés dans cet endroit, à Périgny ?
Oui, moi j'ai débarqué là-bas un peu par hasard, parce que mon père était... son père à lui avait été tué pendant la guerre de 14. Donc il s'est retrouvé quand même en 40 embarqué. Et il a réussi à s'évader d'un camp de prisonniers. Et il a repris le boulot immédiatement. Mais lui, qui était des Ardennes, on l'a nommé dans le Jura. Donc on est arrivé dans le Jura tout à fait par hasard, lui étant ingénieur des ponts et chaussées. Et ma mère étant une institutrice formidable.
Donc c'était assez récent, en fait.
Vous
êtes né, ils y étaient depuis quelques années.
Ils y étaient depuis 2 ans. Ouais.
Est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance qui régnait
Dur.
Pourquoi dur?
Parce que fils unique. Donc ça va pas, parce que j'ai connu plein de fils uniques. On se reconnaît entre nous en général. Il y a par exemple Nils Arestrup, Dussolier, etc. Et c'est pas des bons souvenirs. Pourquoi? Parce que quand on est 3, il y en a 2 contre 1. Et en otage, perpétuel, 2 contre 1. Nous, on n'a jamais terminé un repas complet à table. Toujours, il y a le père qui se lève fâché, qui claque la porte. Alors... par contre, ça a un avantage, ça, c'est Nils qui expliquait ça, Dussolier aussi d'ailleurs, pareil, c'est quand tu es fils unique, tu vis dans l'imaginaire. Tu te crées tout un tas de copains, tu es obligé de vivre dans l'imaginaire.
Il était fait de quoi, votre imaginaire, quand vous étiez enfant?
Il y en avait un qui n'était pas imaginaire, c'est mon copain, c'était mon chien, donc avec lequel c'était comme un frère. Donc, comme les repas, j'avais pas faim vu l'ambiance... Eh ben, c'est le tien, dès qu'il y en avait un qui avait la tête tournée, le cocker était sous la table et griffait tout ce qu'il y avait à manger. Eh ben, tu vois, quand tu veux, tu manges, c'est pas compliqué, puisqu'on te le dit. D'accord. Et par contre, ils étaient, ça c'était un avantage, ils étaient cinéphiles. Ils adoraient le cinéma. Mon père, dans les Ardennes, en 1935-36, il venait au studio à Paris et récupérait des chutes d'argentique qui se bricolaient pour faire des photos. Donc il y avait un côté cinéphile très fort.
Et vous, votre rencontre avec le cinéma quand vous étiez enfant, ça s'est passé...
Ça, c'était ma grand-mère où j'allais en vacances dans les Ardennes. Ma vieille grand-mère, veuve de guerre, qui adorait le cinéma et qui disait le calendrier enchaîné, ce qui n'était pas très courant. Et je me rappelle, premier film, Cartouche, on allait au Majestic, à l'Omnia. Et ça, c'était des souvenirs absolument extraordinaires, parce que il fallait que je sois très gentil, parce que elle me disait avec son accent, tu sais, si tu n'es pas gentil, on verra le gamin, tu n'iras pas au ciné dimanche. Alors ça, c'était la punition totale. Donc à partir du mercredi, j'étais très gentil, parce que de ce temps-là, il y avait pas, on pouvait se balader un peu librement, il n'y avait pas d'inquiétude. Alors il y avait dans une rue l'endroit où on collait les affiches de cinéma, les nouvelles. Et j'attendais à 10h du matin. Et là, ça brillait à cause de l'alcool. L'alcool qui... Bon, j'attendais que ça cesse. Je revenais, puis à midi et demi, je voyais le film. Oh, la rivière sans retour. Oh là là, je lui disais, celui-là, je veux le voir. Donc là, j'étais hyper gentil, parce qu'on allait au cinéma une fois par semaine. Moi, je me rappelle, c'était tellement bizarre que je croyais que le portier devant le cinéma Omnia, qui était là très imposant, je crois que c'était le gars qui avait fait le film. Et j'étais hyper déçu parce qu'ils avaient dit « cinéma en relief hein ». Alors moi, déjà, j'étais émerveillé par le cinéma, mais en relief, je m'attendais à voir. Et puis non, c'était simplement « cinémascope ». Alors ça les traces, hein, quand on est un peu fêlé avec ça. Et puis voilà.
J'ai lu que vous aviez été très marqué aussi par un film qui s'appelle « Les proscrits ». Du Colorado, ouais. The Outcast.
Oui, là, c'est super, parce que ça, c'est une fois, donc, moi, dans le Jura, dès que j'étais à l'école et tout, ma mère était... m'aidait beaucoup. Mon père, très autoritaire, m'aidait pas. Il faisait ce qu'il pouvait, hein, je dis pas ça contre lui, mais enfin, bon, il avait pas eu de père, il avait été élevé par des Allemands dans les Ardennes, derrière la ligne de front, enfin, voilà, il a fait ce qu'il a pu, ce qu'il croyait être bien, quoi. Mais ma mère, c'est elle qui m'a fait apprendre à nager, qui m'emmenait, et notamment, un jour où mon père était malade, aller au cinéma. Voilà, il y avait de la neige, on est parti en vélo. On a fini en poussant les vélos parce qu'il y avait trop de neige. On est allé voir le proscrit du Colorado, avec Jubal, le proscrit, je me souviens. Et puis voilà, donc ma mère poussait comme ça.
Vous aviez un jeu quand vous étiez petit, en fait, c'est Yann Dedet, votre ami, ouais. Qui a été aussi votre monteur, que vous avez connu parce qu'il était monteur notamment de Truffaut. Il a écrit récemment un livre qui s'appelle « Le point de vue du lapin ».
Du lapin.
Et dans lequel il raconte l'aventure qu'a été le tournage de votre premier film Passe-Montagne. Il dit aussi que vous lui avez raconté un souvenir d'enfance, un jeu que vous aviez quand vous étiez tout petit, où vous jouiez sur des rails à vous fabriquer... comme un générique de film, vous couriez sur le ballast. Vous avez le souvenir de ce moment-là?
Oui, bien sûr, parce que ça, c'est dès que j'étais au lycée. Pour moi, la ville, c'était Lons-le-Saunier. Et moi, mon village, c'était Périgny, c'était près de la forêt. Là, je vais faire une digression, mais je vais retomber sur mes pattes. Et moi, j'avais la chance d'avoir une mère qui était une institutrice fabuleuse. On en a reparlé longtemps après. Et surtout, qui était assez libre d'esprit, quoi. J'avais pas loin des gens par lesquels j'étais très attiré, qui étaient les manouches, qui étaient un peu sédentarisés. Alors, Schatz, Weingarten, il y avait toute une bande. Et moi, elle me laissait complètement faire. Donc, j'étais le seul môme du village. Les autres n'auraient pas eu cette idée, d'ailleurs. Moi, j'étais invité par les manouches. Là, grand-mère nous faisait une tarte au sucre. J'habitais chez eux. J'avais le droit, avant d'avoir trop de devoirs, d'aller traîner avec eux. On échangeait les journaux auxquels j'étais abonné, c'est-à-dire Kit Carson, Palom Cassidy, les journaux, les westerns, et eux, tout ce qu'ils volaient. Donc on échangeait les bouquins, comme ça. Et quand j'allais au cinéma en ville, très souvent, alors là j'avais un truc bien spécial, c'est que en province, il y a les mezzanines, les gens assis tout au fond. Et moi j'avais ce truc que j'ai toujours encore, du cinéphile que je savais pas que j'étais, qui est de s'asseoir dans les six premiers rangs. Et là, il n'y avait que les manouches. Et on les faisait rentrer. Je me rappelle, j'avais une pèlerine, je m'étais large. Tous les mômes, le portier faisait son nom pour aller voir. Et avec un ticket, on rentrait. Et moi, je ne voulais surtout pas être assis avec mes parents. Je voulais être avec mes copains, les manouches. Là, les films qu'on voyait, il fallait absolument une envie d'aventure et de mettre en scène et des trucs. Alors pour ça, je montais dans la forêt avec un pote à moi. Il y avait des rails de chemin de fer d'une voie désaffectée. Et j'ai dit, ça, c'est le générique. En avant, pam, 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 avec la musique, on inventait n'importe quoi. Et dès qu'on passait cette frontière, on arrivait dans les bois. Et là, on faisait toutes les conneries qu'on pouvait faire. Et d'ailleurs, Truffaut a bien raison, quand on a parlé de ça sur l'argent de poche, les enfants ont la grâce. Parce qu'on aurait pu mourir 15 fois. C'est-à-dire, on attaquait une autre bande avec des frondes, avec des billes. Qu'un vieux copain me passait des billes de chemin de fer, des roulements à billes, avec des frondes, et on tirait vraiment en réel, en visant les mecs. Un jour, j'ai failli en tuer un, le mec avait un casque allemand de la guerre, et paf, le truc a tapé dessus. Et il n'y aurait pas eu de casque, il s'est cuit. Hein. Après, il y avait des ponts, on descendait en rappel, que des conneries, quoi.
Mais voilà. Vous, fils d'institutrice, vous étiez quel déçu. Type d'élève vous étiez,
très bon. Mais déçu de plus en plus, très mauvais aurait été, parce qu'il fallait faire des devoirs à coups de pied au cul. Moi, je sortais de l'école, j'avais 20 minutes pour rentrer en vélo. Donc après, le père surveillait. Le soir, je faisais jusqu'à 11 heures du soir. Donc c'était vraiment assez... Et surtout, on n'apprenait rien. Par contre, étant demi-pensionnaire, après le repas de midi, avec un autre copain, on était vraiment sur un perron devant une salle de classe et on racontait le western qu'on avait vu. Tous les jours, avec tout, la musique, le générique, tout. Jusqu'au moment où on voyait un autre western. Alors comme ça, par exemple, ceux qui m'ont marqué, c'est vraiment l'homme qui n'a pas d'étoile. Et c'est vraiment aussi Shane, l'homme des vallées perdues.
L'homme des vallées perdues,
oh,
oui.
Là, là, là,
George Stevens.
Ça, oh là.
Pourquoi ce film-là vous a particulièrement marqué?
Je sais pas, c'est le coup embarqué. On ne sait pas pourquoi, mais si on est parti, c'est un bonheur.
Vous aviez eu un professeur malgré tout, ouais. Qui avait été important pour vous. C'était qui?
Oui, c'était un prof en seconde, un prof de français. C'est là que ça a fait changer de vie. Hein. Il avait une clé, il regardait tout le monde. Il disait, allez, Steven au tableau. D'accord. Il y avait des rédactions, des dissertations. Alors moi, je compulsais les trucs, je recopiais des pages entières, je travaillais tout week-end. Et j'avais un pote à moi qui était mon complice pour aller dans la forêt et tout ça, qui lui foutait rien, mais c'était un surdoué, prix d'excellent chaque année. Il n'avait pas de sac, pas de devoir, pas d'école, rien. Et il venait à l'école en plus avec un Colt 45, avec les balles qui faisaient rouler sur la table. Bon, et lui, ben, machin, 17, Scovron, 17. Quand ça arrivait à mon tour, il disait, ah, Stéphane, oh là, c'est lourd. Hein. Oh, il y a du travail là-dedans. Puis, naf. 9,5, quoi. 9,5, parce qu'il y a tellement de travail. Oh là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas là. Moi, je compulse, je recopie des pages entières, c'est pas bon, il faut que j'aie salé mon imagination, écrire quelques trucs qui me viennent. Et là, hop, les notes ont remonté. Et d'un seul coup, après, ça m'a beaucoup aidé, ça.
Et la littérature, ça faisait partie de vos loisirs d'enfant? Vous lisiez à cette époque?
Non, j'écoutais un peu la radio. Là, c'était tout un truc compliqué. Je lisais aussi, ouais. C'est-à-dire, quand mes parents, quand enfin ils allaient dormir, moi, ayant fait mes devoirs, moi, j'avais un lit avec une espèce de tenture. Je dégrafais la tenture, je repoussais le lit, je mettais une bougie. Et il y avait un poste de radio qu'il fallait que je synchronise avec mes parents pour pas qu'ils l'entendent. Alors je mettais la radio. Bang ! J'écoutais, hop, la radio. Et puis, ou alors, je lisais. Et ça n'a jamais pris feu.
Pas comme dans les 4-5 coups.
Oh, là, après, je repoussais tout ça. Ça, c'était les longues années de lycée. Et j'avais inventé un truc qui est vraiment du bruitage. C'est-à-dire que je dormais tout habillé. Mon père venait fermer les volets, alors que moi, j'adore la fenêtre ouverte. Donc, moi, j'ouvrais grand les volets sans faire de bruit. J'ouvrais la fenêtre. Il gelait. Il faisait moins 5. J'étais bien au fond de mon lit et j'étais complètement habillé. Et quand je dis j'invente le bruitage, c'est mon père, c'était un étage en dessous. Il dit, alors tu viens? T'as vu l'heure? Tu viens? Et moi, je bruitais. Je faisais comme si je marchais dans la pièce.
Pour faire croire que vous arrivez.
Voilà. Et d'un seul coup, j'entendais, il montait la volée de marche. J'avais 4 secondes. Hop! J'étais à la fenêtre, habillé. Je dis, mais qu'est-ce que tu t'énerves si j'y arrivais? Il n'a jamais su.
Vous avez dit tout à l'heure que votre père s'énervait souvent, avec le recul des années aujourd'hui. À quoi vous attribuez cette tension qui était la sienne quand vous étiez enfant?
Bah, il était l'époque. Il faisait ce qu'il pouvait, quoi. Vraiment ce qu'il pensait être le mieux, sûrement. Mais c'était l'époque quand même. Moi, c'était une baffe par jour. Mais j'en voulais pas du tout parce que moi, c'était réglé. Il y avait un truc, une grande baffe, bing, couture à table, non, hop, ben. À l'école, c'est pareil, hein. Il y avait, c'était le domaine, maintenant, ça sera un truc, il y aurait tout de suite une manif, avec quoi, l'autre, on l'a frappé, on l'a traumatisé. Il n'y avait pas de tout ça, donc c'était une baigne, mais moi, c'était clair et net, ça faisait partie d'un échange, quoi, finalement. Donc ça, c'était pas grave.
Dans vos trois films, il y a un écho assez fort de la Seconde Guerre mondiale. Dans Passe-Montagne, il y a un personnage dont on devine qu'il a été maquisard. Enfin, on peut le penser. Dans Double Messieurs, il y a ce canular un peu sinistre qui est au point de départ du film. Ouais. Que les deux personnages, le vôtre et celui incarné par Yves Afonso, ont fait un camarade juif dans leur enfance, en lui faisant croire que son père était un officier nazi. Dans Mishka, il y a aussi, par petites touches, des dialogues comme ça, l'air de rien, qui évoquent... qui évoque l'occupation. Vous êtes né en 1944. Est-ce que les souvenirs de la guerre, de l'occupation, c'est quelque chose qui était présent quand vous étiez petit, dans les discours
Oui, ça jouait très fort, parce qu'au début, on ne s'en compte de rien. Mais quand j'avais... Donc, ça, c'était en 44. Quand j'étais au lycée, donc 54, 55, 56, on s'aperçoit d'un seul coup qu'on apprend des trucs. Par exemple, la librairie du lycée, c'était un gars qui s'appelait Guy. Guy, c'était le truc officiel où on allait chercher des livres pour l'école. Ça avait été un milicien. Alors, milicien, les mecs dans la ministre, les fachos, etc. Bon. Et en même temps, dans les forêts où je me baladais, il y avait des petits monuments. Ici, la barbarie allemande a exécuté 150 civils. Alors, on se dit, mais nous, on ne parle pas de ça. L'histoire s'arrête en 1515, Marignan, mais on ne nous parle pas de ce qui vient. On sentait que c'était tout frais, quoi.
Donc, à l'école, on n'en parlait pas du tout.
Pas du tout. Les profs, ni personne. Donc j'ai l'impression qu'on nous racontait que ce qu'on voulait bien nous raconter, qu'ils ne parlaient pas d'un truc vachement important. Et c'était d'autant plus frustrant que mes parents, qui étaient des pacifistes acharnés, ils avaient été en 1936 pour les premiers congés payés en Corse. Ils s'étaient balayés en vélo. Ils avaient rencontré deux couples d'Allemands qui vivaient dans une grotte avec un âne et qui s'étaient barrés d'Allemagne en disant « il y a des camps de concentration et ça va vraiment péter un de ces jours et nous, on bouge plus d'ici ». Moi, j'en voulais, mais bon, je dis « mais vous saviez, alors pourquoi vous êtes revenus ?» Bah oui, parce qu'il y a la mère, il y a les parents, il y a tout ça. Mais là, on se dit « mais tout le monde, on savait, les gens savaient, 1936 ». Alors quand après, donc c'est resté une espèce de fascination pour ce temps-là où on se demande qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on arrive à admettre, c'est ce qui est dans Mishka, ce que dit Roussillon, 6 millions de mecs au four. Après, heureusement, ma mère qui avait vraiment une vision comme ça, voulait l'amitié entre les peuples et tout, je me suis retrouvé à 12 ans en Allemagne dans une famille. Et après à 14 ans, parce qu'elle avait pris... un truc d'échange entre les peuples, mis le doigt au hasard sur une personne. Frau Moser, Fürstenfeldbruck, ils m'ont emmené. Et là, je suis resté 6 semaines dans une famille tchéco, qui avait été ramenée par Hitler, qui vivait dans la tourbe, dans une espèce de village qu'ils avaient reconstruit, parce que la grande République allemande leur avait donné à l'époque qu'une tourbière. Ils ont construit un village. Moi, je suis resté avec cette femme. C'était un amour immédiat et cinéphile, après, pour toujours. J'ai vu toute ma vie. Elle avait un instinct. Elle avait regardé les lignes de ma main, comme ça, un jour, elle m'avait dit « Du bist anders ». Il était très différent. T'as un truc de différence. Elle me disait « Mais c'est pas triste. Hein. Ça peut être un avantage, mais il faut que tu le saches. T'es pas comme les autres. »
Pourquoi cinéphile? Vous avez dit un amour qui restait un amour cinéphile.
Parce qu'elle me donnait, à cause de ça, elle me disait, on allait tous au cinéma, ça nous coûtait un euro par jour, la pension là-bas. C'était, il y avait un Suisse, il y avait toute une bande de canards boiteux qui étaient là, dont notamment aussi un gars du village qui avait été traumatisé par la guerre, qui était devenu fou avec les bombardements qui étaient là. Donc il y avait une espèce de mixte, on allait une fois au cinéma, elle me redonnait un billet de cinéma, un truc pour que j'aille tout seul au cinéma sans des roseaux. Comme ça que j'ai vu le pont de la rivière Kouai à Fürstenfeldbruck plusieurs fois.
Jean-François Stévenin, vous nous aviez dit quand vous étiez enfant, vous aviez vu beaucoup de westerns. On a l'impression qu'il y avait déjà un goût pour le cinéma à cette époque. Et pourtant, les études que vous avez faites s'orientent dans une toute autre direction, puisque vous avez fait HEC, l'école des hautes études commerciales, a priori une formation assez éloignée des métiers que vous allez exercer par la suite. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette voie-là?
Oula, ben ça, c'est encore mon père, ingénieur. Moi, j'avais un de moyenne en maths depuis la sixième. jusqu'à la Mathelem. J'ai passé le bac maths parce qu'effectivement, on pouvait pas passer un autre bac. C'est encore des trucs d'éducation. Tous les gars qui étaient modernes, on disait en moderne, c'est-à-dire, ils ont pas fait de latin. Ils sont là, ben c'est des bœufs, c'est des abrutis, ils existent même pas. Bon, ça, on n'en parle plus. Et autrement, ben, il y a philo ou maths. Bon, philo, c'est des branleurs. Donc, un truc sérieux, c'est Mathelem. Donc, j'ai réussi, mais par hasard, au rattrapage, voir le bac maths, immédiatement, mon père m'a collé en maths sup, Besançon. Les civiques de Rugot, bizutage, etc. Mais là, comme me l'a expliqué plus tard Truffaut sur les films, en me disant le cinéma, c'est l'art des contraintes, et ben là aussi, la pension, c'est l'art des contraintes, mais une fois qu'on connaît ses limites de liberté, c'est formidable. Et nous, quand je pouvais m'évader du pénitencier Victor Hugo, direct cinéma, à l'époque, il s'appelait Le Building, et j'ai vu enfin le premier film en VO. Premier film noir et blanc que je vois, L'Arnaqueur, Paul Newman, Sex in the Corner, Minnesota, là, une joie perpétuelle. Et d'ailleurs, on ne dormait pas dans ce pénitencier, parce que, pareil, le cinéma toujours, on avait chopé une salle de classe au sixième étage, où on gardait que les cartes. Les cartes de géographie, tout ça. On l'avait complètement borgnolé, c'est-à-dire rendu opaque, pour pas qu'on voie de lumière, et on passait les nuits là-bas jusqu'à 4h du matin, à 6 ou 7, c'est-à-dire dès que le veilleur de nuit, il y en avait un, avec une lampe, il y avait Plumard, 80 lits alignés, dès qu'il était passé, sixième étage, et là, voilà, jusqu'au lendemain, après on allait se coucher une heure, pareil, tout habillé, on dormait, on se levait à deuxième cloche. Pas la première pour cela, la deuxième cloche, juste avant 8h moins 2. Ouh, descendez, et là, mathématiques.
Mais à quel moment, alors, Jean-François Cézanne, dans ces années-là, dans ces années d'études, vous vous dites que vous, peut-être vous allez faire du cinéma votre métier, parce que malgré tout, vous avez fait HEC, vous avez été jusqu'au bout. À quel moment se fait la bascule? Est-ce que c'est à cette époque-là?
D'abord, j'ai jamais pensé que j'en ferais mon métier, mais quand mon père a bien compris, de toute façon, on m'a mis dehors au lycée à Besançon. Ça, n'est pas question de rester. Donc, lycée du Parc, préparation HEC. À l'époque, à Lyon. Donc là, à l'époque, c'était presque péjoratif. Les grands corps, c'était vraiment les préparations à l'ENA, Normale Sup et tout ça. On appelait ça l'EPIS, l'EPIS Turgot, préparation HEC. C'est vraiment, c'était le niveau, il fallait avoir le bac, c'est niveau, le bac Mathelem renforcé, quoi. Donc j'ai fini par en deux ans par rentrer vraiment un peu par hasard. J'ai toujours pas compris pourquoi. Mais l'avantage c'était que moi le vendredi soir j'étais libre. Je rentrais chez mes parents, mais en réalité je rentrais pas. C'est moi qui signais les bons. Et là j'étais au cinéma et je voyais films non-stop. La fourmi, la cigale, les machins non-stop. Et là j'ai découvert alors tout. Antonioni, Bergman. Et rigolo parce que Bergman, le septième saut, je croyais que c'était un film de para, moi. Et là ouf. Et aussi Antonioni, La Notte, ou L'Aventura, c'est pareil, je croyais que c'était un polar. Non, non. Mais là, le choc, c'est-à-dire une vraie émotion métaphysico-filmique qui existe toujours, hein. Qui existe toujours, la même.
Pendant vos études à HEC, vous avez fait, je crois, un séjour à Cuba, qui a été assez déterminant dans le chemin que vous allez emprunter ensuite. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce voyage? On était au mi-temps des années 60, vers 66.
Oui, parce qu'à HEC, j'avais un pote communiste et il y avait une cellule communiste à HEC. Qui l'eût cru. Et on devait faire un voyage à Cuba. Et lui, 4 mois avant ce voyage, c'est mon copain, cinéphile à fond. On allait au cinéma ensemble sans arrêt et tout. En rentrant un soir avec un autre gars, une voiture d'un MG décapotable qu'ils avaient, et il s'est tué sur le mur de l'école. C'était une des premières morts violentes que j'ai vécues. Et 2-3 mois après, quand tout le monde voulait aller à Cuba sur le truc, hein, les gars sont venus en disant, lui, il t'adorait, c'est la place du mort, mais voilà, si tu veux venir. Bon. Donc je me suis retrouvé à Cuba, comme ça. Alors à Cuba, c'est simple, il n'y avait que des flics partout, parce que j'avais quand même un goût du backstage qui m'est resté, c'est-à-dire de ne pas croire à tout ce qu'on vous dit. Et dans l'avion, j'avais connu un fou furieux qui était un fleuriste et qui était habitué à tous les voyages et qui m'avait dit « Non, non, change pas ton fric. » Moi, je croyais qu'il était homo. Moi, je croyais qu'il y avait un truc. L'autre, il me draguait vraiment. Il me dit « Non, attends. » Parce qu'on vous dit, on change 20 pesos, 20 francs, 20 dollars, c'est tout pareil. L'autre, il m'a dit, change le minimum, moi je te fais tout multiplier par 10. Ce qu'on a fait, tout multiplié par 10. Oh, oh. Il n'y avait que des histoires de flics. L'autre, il me dit, tu vois, dans ta chambre, quand tu sors le soir, colle des cheveux sur la porte, le matin, ils n'y sont plus. Ce qui était vrai. Et l'autre vivait des nuits de débauche entières. Et le matin, touriste, le premier à poser des questions. Maison d'Hemingway, le premier avant de prendre le bus. Et je me suis dit, mais comment il faisait, il ne dormait pas, lui. Alors je me disais, ça, c'est un bon lascar. Alors, quand on venait nous embringuer, les maisons des Mingos et tout ça, j'en avais rien à foutre. Moi, j'étais à la piscine du Habana Libre, avec, là aussi, c'est un rapport avec le cinéma, c'est marrant, avec un copain. L'année d'avant, on avait été à Londres. On avait rencontré les Rolling Stones et tout ça. Donc, l'ambiance de flic à Cuba, c'était moyen, quoi. J'en avais marre, quoi. Puis un jour, je vois un tournage dans cet hôtel où on était, d'une télé du coin. Oh, je me dis, j'y vais. Je vais à la, comme on irait en France, au ministère de la Culture. Je vais là-bas, direct. Je vais, voilà. Et en bas, devant ces immeubles, 3h de l'après-midi, la chaleur, le truc plombé à fond, il y avait une jolie milicienne qui avait la Kalachnikov comme ça. J'ai compris qu'elle faisait son tour de garde. C'était une poétesse. Elle faisait son tour de garde. À l'époque, il y avait la baie des cochons. Tout le monde faisait réserviste, faisait un tour comme ça. Et elle parlait français. Alors je lui dis, je raconte tout, quoi. Et elle me dit, mais je peux en parler au patron, je le vois.
C'est-à-dire que vous lui dites
que vous voulez... Ah, je lui dis, voilà, je suis là par hasard. Les communistes, je ne suis pas communiste, tout ça. Et si je pouvais être sur un film, n'importe... Non. Elle me dit, restez près du téléphone, il est capable de vous appeler. Le soir même... Peut-être le lendemain soir, téléphone, 10h du soir, ça c'est l'avantage à Cuba. Je vois le gars, alors là, dernier étage, ascenseur, les vitres teintées. Je raconte toute l'histoire. Il me dit, bon, je peux vous donner 3 pesos par jour. Et si vous voulez, vous partez jeudi avec le camion des effets spéciaux. C'est un film qui s'appelle Las Aventuras de Juan Quintín. Et c'est tourné à Cienfuegos, à 1500 km. Et c'est parti. Je dis d'accord. Et là, je suis parti, camion des effets spéciaux. Le soir, en arrivant, le metteur en scène me dit « Ah, vous devez être fatigué, voyage et tout. » Ah, j'ai dit « Non, pas du tout. » Et je me suis retrouvé avec eux. Alors là, tout a changé. L'armée qui est là, 200 personnes qui s'habillent en paysans, ils ont des uniformes, le travelling de 100 mètres de long, caméra Mitchell, ce qui m'étonnait, parce que Mitchell, Amérique. Et là, je suis resté 6 semaines dans un bonheur absolu. Et comme il n'y avait plus d'histoire de flic, de rien du tout, puisqu'on était qu'entre Cubains, d'un seul coup, la langue est rentrée, parce qu'il fallait que... Là, c'était assez facile, d'ailleurs, mais là, la langue est propulsée totale. Alors, je faisais des photos avec un Virola Flex, je distribuais de l'eau, je portais des cafés, enfin, j'essayais de me rendre utile. Mais là, toc, ça a été décisif. Rentré à Paris, dernière année, j'ai HEC. Bien sûr, j'ai appelé tout le monde, écrit à toutes les boîtes, personne ne m'a jamais répondu. Et bien plus tard, ça s'est mis en route.
Merci Jean-François Stévenin. On verra demain comment la suite s'est passée.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathilde Wagman avec Jean-François Stévenin. À voix nue, réalisation Anne Pérez, prise de son François Rivalant, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.